Bonjour Laurence.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Pas de vacances pour les opposants à la réforme du lycée. Certains enseignants ont décidé de mettre des 20 sur 20 à leurs élèves pour bloquer le processus d'orientation par les notes. Une majorité de Français souhaite que le mouvement des gilets jaunes s'arrête, alors que la cote de popularité d'Emmanuel Macron progresse à 32% d'opinion favorable. C'est un sondage Odoxa pour France Inter. Il n'y a plus de saison, un mois de février comme un mois d'avril. Le changement climatique est à l'œuvre. Une saison hivernale de plus en plus courte et à l'intérieur des périodes froides réduites elles aussi.
La présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, sera l'invitée de Léa Salamé à 7h50.
France Inter.
Les mobilisations contre la réforme du lycée ne faiblissent pas, Laurence.
Cette réforme déjà engagée se traduira dès la rentrée prochaine par la suppression des filières au profit d'un tronc commun complété par des enseignements de spécialité. Si le ministre espérait une accalmie avec les vacances scolaires d'hiver, il n'en est rien. Il y a eu les blocages lycéens parfois violents qui ont marqué la fin 2018. Voilà des semaines maintenant que des enseignants, un peu partout en France, multiplient les actions en opposition à cette réforme. Et plutôt que de faire grève, beaucoup d'enseignants cherchent à frapper les esprits. Par exemple, en pratiquant la rétention des notes ou en attribuant à tous des 20 sur 20, un mode d'action pour empêcher la sélection par les notes. Et c'est le cas du lycée Sophie Germain à Paris. Sonia Princé.
Dans ce lycée réputé de la capitale, les élèves vont être surpris d'avoir 20 sur 20 de moyenne sur leur bulletin. C'est pourtant ce qu'a décidé le collectif des professeurs en colère du lycée Sophie Germain. Ils continuent à donner des contrôles et à communiquer les vrais résultats dans la classe, mais ils refusent que les élèves soient sélectionnés par les notes pour le choix des spécialités.
Donc au moment du conseil de classe, évidemment, cela va un petit peu gripper le système, parce que en face de nous, nous avons des directions, nous avons le rectorat, nous avons un ministère qui, on le voit très bien à leur réaction depuis quelques jours, ont vraiment besoin d'avoir une hiérarchie des élèves par la note, en fonction de ceux qui ont au-dessus de 12-14, de ceux qui sont entre 12 et 8, de ceux qui sont en dessous de 8. Et en fait, avec cette action-là, on bloque leur organisation administrative.
Les parents ne sont pas forcément convaincus par ce mode d'action. En revanche, beaucoup d'élèves soutiennent les professeurs qui s'opposent à la réforme du lycée.
Je trouve que les profs, ils ont trouvé un moyen qui est peut-être pas le meilleur moyen, mais qui est un moyen qu'ils n'ont pas essayé, donc peut-être que ça va marcher. L'éducation française tient beaucoup aux notes, effectivement, même si c'est malheureux. Et du coup, jouer sur les notes, ça peut peut-être marcher. Ça peut faire réagir dans la mesure où si tous les élèves ont 20, il y a un moment où ils vont être obligés de faire quelque chose. Et je sais qu'il y a plein de profs qui vont laisser leur 20.
Selon un vote organisé dans ce lycée, 91% des professeurs se sont prononcés contre la réforme qui doit s'appliquer à la rentrée.
Sonia Princé, 48 heures après l'acte 15 des Gilets jaunes, une nette majorité de Français demande désormais l'arrêt du mouvement. C'est un sondage Odoxa réalisé pour France Inter, l'Express et la presse régionale. 55% des personnes interrogées sont lassées, agacées par le mouvement. Et pas seulement les Français qui habitent en zone urbaine, qui réclament l'arrêt des manifs, mais aussi ceux des petites villes et des zones rurales. Autre enseignement de cette enquête France Inter. Emmanuel Macron, plombé par le mouvement des Gilets jaunes, poursuit sa remontée et regagne 2 points de popularité en février. Le chef de l'État est presque parvenu à effacer l'ardoise. Désormais, 32% des Français pensent qu'Emmanuel Macron est un bon président de la République. Autrement dit, Yael Gauz, pour le chef de l'État, ça va mieux.
C'est une formule empruntée à François Hollande et elle porte malheur, ironise un responsable de La République En Marche. Mais effectivement, ça va mieux pour Emmanuel Macron. Plus 3 points en janvier, plus 2 en février, il retrouve sa cote d'avant la crise des Gilets jaunes. Cote qui n'était pas flamboyante à l'automne 2018. Mais depuis le lancement du grand débat, l'hémorragie est stoppée. Une cote en hausse quand celle des Gilets jaunes dégringole. C'est la première fois que l'Institut Odoxa enregistre ce croisement des courbes. Désormais, 55% des Français interrogés réclame l'arrêt du mouvement. Autre motif de satisfaction pour l'Élysée, ses opposants sont en toute petite forme avec des cotes de rejet très hautes pour Marine Le Pen, 52% de rejet, Jean-Luc Mélenchon 50%, Laurent Wauquiez 43%. Enfin, Emmanuel Macron refait son retard sur Édouard Philippe, quasiment ex aequo. Ça va mieux donc, mais tout est relatif. La clé, c'est de réussir la sortie du grand débat. Quand Édouard Philippe demande des contreparties aux aides sociales ou qu'Emmanuel Macron ironise sur l'échec des partenaires sociaux sur l'assurance chômage, attention, s'inquiète un député En Marche, attention au grand malentendu.
Un sondage qui parle aussi des Français peu, voire pas du tout intéressés par les prochaines élections européennes. C'est à retrouver sur franceinter.fr.
Plus de 15 degrés sur certaines pistes de ski. L'hiver 2019 est très doux et la semaine s'annonce à nouveau ensoleillée jusqu'à mercredi, Laurence.
Alors, y a-t-il un rapport entre cette météo très douce cette année et le réchauffement climatique? La réponse n'est pas si simple. Pour les climatologues et les météorologues, il ne faut pas confondre a priori climat et météo. Des températures douces en France à un moment donné ne témoignent pas forcément d'un radoucissement global au niveau mondial. Ceci étant dit, si on observe les températures des derniers hivers français sur plusieurs années, ils sont globalement plus chauds qu'il y a 50 ans. Pour le climatologue Jean Jouzel, vice-président du groupe scientifique du GIEC, le groupe intergouvernemental pour l'étude du changement climatique, il va falloir s'habituer à des hivers assez doux en France.
Les hivers vont devenir de plus en plus doux en moyenne en France avec ce réchauffement. C'est 1,5 degré plus doux en France que les hivers, disons, il y a une cinquantaine d'années, dans les années 50-60. On n'a pas, comme cet hiver de 1963, où pratiquement pendant les 3 mois d'hiver, on était à des températures autour de 0 degré. On n'a jamais eu ça à nouveau. Il y a eu des hivers un peu rudes, disons, 2009. L'an dernier, il y a eu quelques pics de froid, mais ce n'était pas un hiver en moyenne très froid non plus. Donc, en moyenne, les hivers se réchauffent, deviennent de plus en plus doux, avec des conséquences aussi bien sur la saison d'enneigement, qui a tendance à diminuer de façon régulière, aussi bien sur les Alpes que sur les Pyrénées et dans les autres massifs montagneux français. Le réchauffement, c'est un réchauffement de toutes les saisons, avec quand même en France un réchauffement peut-être plus marqué pendant l'été.
Un sol très sec, pas de pluie depuis un certain temps et beaucoup de soleil, mais aussi l'imprudence des écobuages. Pour la préfecture de Corse, le dérèglement climatique est à l'œuvre. Il faudra s'habituer, dit-elle, à voir des incendies en hiver en Corse. 1600 hectares de végétation ont brûlé en 24 heures, 48 départs de feu. Le vent violent devrait faiblir ce matin et permettre d'éviter une propagation des incendies. D'importants moyens aériens sont déployés sur place. Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, en a fait une de ses priorités depuis des mois, le tabac de contrebande. Les saisies sont en hausse en 2018. Le bilan annuel sera dévoilé ce matin, mais le Figaro croit savoir que le nombre d'affaires a bondi de 15% en un an, avec plus de 16 000 saisies. L'idée des douanes, c'est de démanteler en profondeur les réseaux de plus en plus complexes. Et sur le front des nouvelles consommations, les douanes s'intéressent de près sur le tabac à narguilé, des barres à chicha très prisées chez les jeunes. Reportage de Raphaël Kahn. Il a suivi un contrôle des douanes et de la police dans un établissement du 12e arrondissement de la capitale.
Le bar est vide, pas de clients, pas de gérants non plus, seuls deux employés, surpris de voir débouler une dizaine d'agents.
Service des douanes.
On va faire un petit contrôle des tabacs.
Au milieu des narguilés entassés sur des étagères, des écrans de télévision et des néons colorés, les inspecteurs des douanes commencent à fouiller l'établissement.
Alors on cherche tout ce qui est licence et carnet de revente et des tabacs.
Ce carnet atteste que le bar se fournit au bureau de tabac le plus proche. C'est obligatoire, c'est la loi. Il doit contenir tous les tickets de caisse.
Il n'y a absolument aucun ticket.
On ne sait pas où il s'approvisionne.
Pourtant, le tabac ne manque pas, rangé dans des boîtes en plastique.
On a un peu de tabac narguilé en vrac. Oh, c'est de la menthe. Ça sent quand même fortement.
Et leur origine ne sera pas un mystère bien longtemps. L'un des douaniers découvre des boîtes de tabac étrangers et un sac du duty-free de l'aéroport de Dubaï.
Là-bas, les prix sont tellement bas que c'est très intéressant pour les professionnels de se faire livrer directement par des amis. Ça revient 4, 5 à 6 fois moins cher.
Au téléphone, le gérant du bar rassure un inspecteur qu'il achète son tabac en France, mais il a du mal à le croire.
Là, on a du tabac qui a été acheté en Allemagne, parce que c'est marqué en allemand que fumez-tu. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Après avoir fouillé même les poubelles, les douaniers saisissent tout le tabac du bar à chicha, un peu moins de 6 kilos.
On est plutôt dans la norme, un bon contrôle.
Le gérant risque une amende, il devra s'expliquer devant les douaniers cette semaine.
À l'étranger, au Sénégal, le camp du président Macky Sall revendique la victoire au premier tour de l'élection présidentielle. Selon le Premier ministre, le président a été réélu avec 57% des voix. Les résultats officiels ne sont pas attendus avant plusieurs jours. Quelles mesures pour contraindre Nicolas Maduro, le président du Venezuela, à quitter le pouvoir? Réunion aujourd'hui à Bogota, en Colombie, entre l'opposant président autoproclamé Juan Guaido et ses alliés du groupe de Lima, ainsi que le vice-président des États-Unis, Mike Pence. Toutes les éventualités sont à l'étude, y compris l'usage de la force, comme l'a laissé entendre ce week-end le secrétaire d'État américain Mike Pompeo.
7h38, la suite du journal. L'Afghanistan semble n'avoir jamais été aussi proche d'un processus de paix.
Cinquième round de discussion entre les États-Unis et les représentants talibans. La rencontre a lieu aujourd'hui à Doha, au Qatar. Des talibans qui ne veulent discuter qu'avec les États-Unis, qu'ils considèrent comme leur principal adversaire dans ce conflit vieux, armé, vieux de 17 ans. Ils qualifient de fantoche de Kaboul les émissaires du gouvernement afghan. Les États-Unis ont promis le retrait de leurs troupes pour répondre à l'exigence numéro un des talibans. Alors à Kaboul, si une partie de la population redoute le retour des talibans, certains l'attendent avec impatience. C'est le reportage dans le quartier Bagrami, dans le sud-est de Kaboul, de Sonia Ghazali.
Le retour des talibans Reza Khan le souhaite depuis très longtemps. Le fermier se dit là des failles du gouvernement afghan.
La République islamique d'Afghanistan n'a d'islam que le nom. Rien n'est islamique ici. Regardez la corruption dans le système. Si vous avez affaire à la justice, cela vous prendra 3 ans. Avec les talibans, les problèmes sont réglés en 3 jours. Nous voulons le système des talibans.
Haji Khan Mamat est le chef de la communauté. L'homme est progressiste et selon lui, l'éventuel retour des talibans est loin d'effrayer la population, y compris les femmes.
90% des femmes afghanes n'ont pas de problème avec les talibans. Leur vision correspond à notre culture. Les femmes restent à la maison et ne travaillent pas. Peut-être que quelques femmes veulent des changements. On demandera de toute façon aux talibans de changer leurs règles pour les femmes qui le souhaitent.
Pour son épouse, Shabana, peu importe ses droits, la priorité est ailleurs, dit-elle.
Nous voulons la paix. Si les talibans reviennent, cela signifie que ce sera la paix. Et c'est tout ce que nous voulons.
Dans le quartier, le retour des talibans est présenté comme le point final à la guerre meurtrière, mais aussi comme un retour au respect des valeurs islamiques. Sonia Ghezali, Kaboul, RFI pour France Inter.
Détente entre Washington et Pékin, le président américain décide de reporter les hausses des droits de douane sur les produits chinois importés. Un accord commercial entre les deux pays semble être sur la bonne voie. La 91e cérémonie des Oscars, un palmarès plutôt équilibré. Il y en a pour tous les goûts. La plus haute distinction, le meilleur film, a été décerné à Green Book, sur les routes du Sud. L'histoire vraie d'un pianiste noir en tournée dans le Sud ségrégationniste des États-Unis. Autre gagnant de la soirée, Bohemian Rhapsody, biopic consacré au chanteur du groupe Queen, Freddie Mercury, qui a obtenu l'Oscar du meilleur acteur, qui a valu l'Oscar du meilleur acteur à Rami Malek, et puis meilleure actrice, Olivia Colman pour La Favorite, et Roma d'Alfonso Cuarón, Oscar et du meilleur réalisateur et du meilleur film étranger.
Merci Laurence.